Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Julie Gayet
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Bonjour Julie Gayet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de prendre les commandes du journal inattendu aujourd'hui. Je suis ravie de vous recevoir.
Merci.
Au programme de cette émission, de l'actu, du cinéma et des femmes. Votre actualité cinéma, Julie Gayet, c'est Polly. Le 21 octobre, vous serez de retour dans les salles aux côtés de François Cluzet et Patrick Timsit pour le nouveau film de Nicolas Vanier. Polly raconte une belle histoire d'amitié entre un poney et une petite fille. Tous les ingrédients d'un bon Nicolas Vanier sont réunis. Beauté absolue des paysages, des animaux et des enfants qui font la leçon aux grands avec malice. Vous êtes actrice et vous êtes tout autant une personne engagée, notamment auprès des femmes. On le découvrira dans votre reportage inattendu. Vous nous emmenez à la Fondation des Femmes. Comme chaque semaine, une surprise vous attend en fin d'émission et vous laisserez un message sur notre répondeur. Mais d'abord, c'est toujours comme ça qu'on commence. Vous avez une minute pour faire votre autoportrait. Alors Julie Gayet, qui êtes-vous?
Eh bien, plutôt que mon portrait, j'avais envie de faire le portrait d'une sœur. Elle est brune, je suis blonde. Elle est mexicaine, je suis française. Mmh. Sur le papier, tout nous distingue. Sur le terrain, nous sommes des sœurs jumelles. Nous avons en commun la dyslexie et la passion du foot. Elle aussi, elle crie sur les dans les gradins. Nous avons partagé l'amour du cinéma et le choix d'être actrice et productrice. Nous chérissons un même engagement, le combat pour les femmes. Elle m'a montré la voie. Grâce à la production, elle s'est imposée à Hollywood, lui permettant d'incarner de magnifiques rôles, inoubliables Frida Kahlo, et faire ainsi avancer la cause des femmes. Et toujours avec un temps d'avance, la première à produire des séries, à l'époque, en nous offrant avec Ugly Betty une critique déjantée du sexisme dans l'univers de la mode. Bref, courageuse et libre, elle joue avec les codes et renverse les clichés pour faire bouger les lignes. Et toujours pour la cause des femmes, et toujours avec un temps d'avance. J'ai eu la chance de la rencontrer au Festival de Cannes. C'est là encore qu'elle a proposé la création en 2015 de Women in Motion pour mettre en avant la contribution des femmes du 7e art. À l'époque, cette tribune indispensable et paraissait impensable il y a 5 ans, est devenue une évidence aujourd'hui. Au fond, elle pourrait faire sienne cette phrase d'André Putman. Ne pas oser, c'est déjà perdre. Alors voilà, merci Salma Hayek. Je l'avais écrit dans le challenge, mais je voulais vous le dire, vous le redire. Merci d'être ce modèle qui m'inspire, qui m'a inspirée et qui projette dans la lumière tant de femmes restées trop souvent dans l'ombre.
Vous avez attisé notre curiosité, donc c'était Salma Hayek, votre sœur jumelle. Mais c'est de vous, Julie Gayet, qu'on va parler.
J'ai du mal à parler de moi.
Pendant cette heure en direct, mais d'abord, l'actualité de ce samedi. À la une, les intempéries qui ont ravagé cette nuit le sud-est de la France. 8 personnes sont toujours portées disparues. La zone sinistrée est coupée du monde. On fait le point sur la situation dans un instant avec notre envoyé spécial. Donald Trump, cobaye d'un traitement expérimental testé positif hier au Covid-19. Le président américain va bien, mais il a tout de même été hospitalisé et a reçu des anticorps de synthèse. Alors, qu'est-ce que ce traitement? Les explications dans ce journal. On attend d'une minute à l'autre le nom du nouveau président de la Fédération française de rugby. Il a un enjeu principal, préparer la fédération et les joueurs à la Coupe du Monde 2023. La météo de ce samedi, le temps sera toujours aussi perturbé ce week-end, notamment dans l'ouest, Anthony Kazmarek.
Exactement, avec encore beaucoup de pluie aujourd'hui entre la Bretagne et les Pyrénées, notamment sur les Côtes d'Armor, département placé par Météo France en vigilance orange pour un risque d'inondation. On attend 2 à 3 semaines de pluie d'ici à ce soir, mais de fortes pluies aussi sur le Poitou, l'ouest du Massif central et le Pays Basque, avec de fortes rafales de vent sur tout le littoral atlantique entre 90 et 100 km/h. Et puis à l'avant, le ciel va s'ennuager entre la Bourgogne, les Cévennes, le long de la vallée du Rhône, avec là aussi de fortes rafales de vent, 90 km/h dans les terres. En revanche, belles éclaircies entre la Normandie, l'Île-de-France et le Nord. Même chose près des frontières de l'Est et surtout sur la Côte d'Azur. Côte d'Azur où on a relevé 500 mm de pluie dans la vallée de la Vésubie. Ce sont les relevés de Météo France. C'est un record absolu. Il y aura toutefois encore un risque d'orage sur la Corse. Quant aux températures, elles sont toujours aussi fraîches, de 11 degrés à Aurillac jusqu'à 22 à Bastia. Vous aurez 14 degrés au meilleur de la journée à Paris, à Lille, à Brest, à Rennes, 15 à Strasbourg et Toulouse, 16 pour Lyon et pour Bordeaux et 19 à Marseille.
Merci Anthony, vous avez bien écouté la météo Julie Gayet, puisque c'est vous à 13h qui nous donnerez des nouvelles du temps.
Le journal inattendu sur RTL.
Des centaines de pompiers sont toujours mobilisés aujourd'hui pour retrouver 8 personnes portées disparues dans le sud-est de la France. Des pluies diluviennes, des maisons emportées, des réseaux internet et mobiles coupés. La tempête Alex a fait des dégâts spectaculaires. Dans l'arrière-pays niçois, des villages entiers ont été emportés. La population est abasourdie. Bonjour Sinamir, vous êtes en direct du Plan du Var, au pied de la vallée de la Visubie, l'une des zones les plus ravagées.
Où le soleil est revenu, comme surtout l'arrière-pays niçois, c'est la bonne nouvelle, mais où les deux rivières de la Tinée et de la Vésubie, oui, continuent jusqu'au bas de ces vallées escarpées d'être des immenses torrents de boue où s'amassent des troncs d'arbres, des portions de routes effondrées, des rapides brunâtres qui ont emporté ou endommagé une centaine d'habitations depuis hier, confirmé tout à l'heure le maire de Nice dans son dernier bilan. 12 000 foyers sont toujours coupés du monde ce midi ici, sans téléphone ou sans électricité, et on retrouve au pied de cette vallée de la Vésubie des dizaines d'habitants bloqués depuis hier soir par les barrages des gendarmes. C'est le cas de Grégory qui a pu avoir des nouvelles rassurantes ce matin de sa femme et de son fils.
Ben, ça se passe que je suis dans l'attente de savoir si au moins j'ai l'autorisation d'y aller à pied, quoi. J'ai passé la nuit dans la voiture sur un parking un peu plus bas au Borou, bloqué par les gendarmes qui eux-mêmes ne pouvaient pas aller rejoindre la gendarmerie parce que tous les ponts étaient bloqués là-bas. J'ai toujours habité dans cette vallée depuis tout petit et vraiment ça j'ai dû le voir deux fois. Et la première fois, c'était carrément le génie civil militaire qui était venu construire un pont en urgence, parce qu'il y a la route qui était tombée carrément, quoi.
Jean Castex et Gérald Darmanin devraient survoler ces vallées sinistrées d'ici le début d'après-midi. Des renforts militaires vont être envoyés sur place pour épauler les pompiers qui ont totalisé près de 350 interventions depuis hier. On compte encore une ce midi, puisque un chef de gendarmerie recherché après l'effondrement est retrouvé sain et sauf ce matin après s'être réfugié toute la nuit dans une maison abandonnée.
Et oui, vous l'entendez, la communication est compliquée en ce moment. Sinamir, envoyé spécial de RTL au Plan du Var. 13 hélicoptères ont été mobilisés pour monter les secours dans les villages sinistrés. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et originaire de Saint-Martin-Vésubie, vient de survoler la zone.
J'y ai découvert un spectacle terrifiant, des scènes de dévastation. Mon village de Saint-Martin-Vésubie complètement dévasté, celui de Roquebillière également. La vallée de la Vésubie a été terriblement touchée. Je mesure l'ampleur terrifiante des dégâts. Des dizaines de maisons n'existent plus, ont été emportées, ont été rayées de la carte. Le nouveau cimetière du village de Saint-Martin a été emporté par les eaux. Des ponts sont détruits à la sortie du village, des dizaines de kilomètres de route. Il y a à cette heure plus d'eau potable, plus d'électricité, plus de téléphone. Une situation extrêmement préoccupante et puis surtout une angoisse de voir le bilan s'alourdir compte tenu de l'ampleur des dégâts matériels.
Voilà un spectacle terrifiant, propos recueillis par Aurélia Valarié. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le Premier ministre Jean Castex viennent d'arriver à Nice à l'instant. D'importants moyens supplémentaires vont être déployés dès aujourd'hui, notamment l'armée. On fait un point sur la situation à 13h. Dans l'actualité également, coup de tonnerre aux États-Unis. Donald Trump et sa femme ont tous les deux été testés positifs au Covid-19. Le président est hospitalisé en ce moment, mais il assure qu'il va bien. Information étonnante, il fait l'objet d'un traitement expérimental. Nous retrouvons Lionel Gendron en direct de Washington. Bonjour Lionel. Donald Trump a reçu des anticorps de synthèse. Il joue donc au président cobaye.
Oui, c'est surprenant et c'est la société Regeneron qui propose ce traitement prometteur, certes, mais sur 275 personnes seulement, pas approuvé, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. En fait, ce sont des anticorps de synthèse, donc fabriqués en laboratoire, qui sont censés fondre sur le virus pour le neutraliser. Mais c'est vrai que ça peut paraître étrange comme ça de donner un traitement expérimental à un président des États-Unis. Alors les nouvelles officielles, vous l'avez dit, sont plutôt rassurantes. Donald Trump notamment n'est pas sous assistance respiratoire. Le soleil est en train de se lever ici devant l'hôpital Walter Reed devant lequel je me trouve. Je vois les lumières qui s'allument dans cet hôpital. Mais les inquiétudes ne sont pas dissipées pour Donald Trump car c'est la deuxième semaine qui est la plus compliquée souvent dans l'infection. Et a priori, Donald Trump est dans sa première semaine. C'est la deuxième semaine où le système immunitaire peut s'emballer. Mais Donald Trump, 74 ans, est sans doute le patient le mieux surveillé au monde.
Merci Lionel Gendron en direct de Washington pour RTL. Aux États-Unis, les essais cliniques ont été lancés dès le mois d'août sur plusieurs centaines de volontaires avec ces fameux anticorps de synthèse. Mais qu'est-ce que c'est ? Les explications de Nathan Peffers-Madja, infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris.
c'est un traitement qui est à base d'anticorps dits monoclonaux. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des anticorps, donc qui sont des petites molécules qui ciblent un des composants du virus. Donc ça ressemble à, on va dire, une petite main ouverte qui va se coller contre le virus et l'empêcher de réaliser certaines fonctions, et là notamment d'entrer dans les cellules et donc d'infecter les cellules humaines. C'est un nouveau traitement, hein, puisqu'il a été développé spécifiquement pour le virus et qu'il n'a jamais été autorisé pour le traitement d'une maladie chez l'homme.
Propos recueillis par Émilie Beaujard pour RTL. Je rappelle que les États-Unis est le pays le plus touché au monde par le coronavirus, avec près de 210 000 décès. Dans un instant, le point sur l'épidémie en France. On en parle avec vous, Julie Gayet. A tout de suite, restez avec nous sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Julie Gayet et Ophélie Meunier.
L'épidémie de Covid en France, un nombre de cas positifs en légère baisse ces dernières 24 heures par rapport à la veille, un peu plus de 12 000. Le gouvernement a accordé un sursis à plusieurs villes fortement touchées par le virus, notamment Paris et Toulouse, avant de mettre en place des mesures de restriction plus radicales si la situation ne s'améliore pas ces prochains jours. Les professionnels de santé demandent absolument aux Français de respecter les gestes barrières. Ils sont déjà sous l'eau et ne veulent surtout pas revivre la situation catastrophique du mois de mars. Julie Gayet, votre père est chirurgien, votre frère radiologue. Vous parlez avec eux de la situation dans les hôpitaux, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vous en disent?
Exactement, d'être sérieux, de faire attention quand quelqu'un est touché dans sa famille, peut-être de se mettre comme ça pendant 7 jours, de rester éloigné, de protéger les uns les autres, de porter un masque, évidemment, se laver les mains régulièrement. Et c'est sérieux, et il faut prendre ça sérieusement.
Votre père a toujours dit qu'il était très important de s'occuper des malades en passant du temps avec eux. Comment vit-il aujourd'hui cette période où l'on ne peut clairement plus prendre soin des malades comme avant ?
Oui, mais ça peut être une attention, ça veut dire ces attentes qui sont terribles aux urgences, même de pouvoir donner, j'allais dire, du sucre, parce que ça peut être un petit quelque chose, de dire je suis là, on vous attend, on va prendre le temps d'essayer d'écouter et de ne pas abandonner les gens dans une détresse sans savoir, comme ça dans les couloirs. Donc c'est toujours cette humanité d'abord, et que en fonction de la personne qu'on a en face de soi, si elle ne sait pas parler français, dessinons. Si elle ne comprend pas ce qu'on est en train de raconter, lui expliquer, se mettre à son niveau, et vraiment que personne ne puisse être à l'hôpital, se sentir totalement avec des mots incompréhensibles. Il y a un petit côté Molière, quoi, le médecin qui parle avec des mots compliqués. Donc il a toujours voulu se mettre à la hauteur du patient et qu'il soit bien sûr d'avoir bien compris. Et après, ça se fait à deux, ça se fait effectivement le médecin et le patient. Et aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, avec Internet, les patients sont assez... apprennent, veulent comprendre, veulent savoir. Donc encore plus aujourd'hui.
Une petite attention malgré tout, malgré cette situation bouleversée. Je rappelle que plusieurs syndicats hospitaliers appellent à une journée de grève nationale le 15 octobre prochain pour réclamer notamment des embauches massives et immédiates, parce que ça se fait aussi par le biais de moyens.
Nécessaire, avec ce qu'on a vécu au mois de mars, de donner les moyens.
Les sports, je sais que ça vous intéresse aussi. C'est un jour important pour
le rugby,
du ballon ovale. Bernard Laporte vient d'être réélu de justesse il y a quelques minutes, patron de la Fédération française de rugby. Jean-Michel Rascol a suivi pour RTL le scrutin. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Alors comment a été accueilli ce résultat ?
Eh bien, par des acclamations, forcément, Bernard Laporte était accompagné de ses plus fidèles soutiens, mais il a pu mesurer une véritable adversité à travers ce vote électronique. Il l'emporte sur le fil avec seulement 51,47% contre 48,53% à Florian Grill, le président de la Ligue Île-de-France. Sa récente garde à vue face aux policiers de la brigade financière a bien sûr pesé dans le choix des clubs, mais les récentes mesures en faveur du rugby amateur, la fédération a débloqué 35 millions pour aider les clubs à gérer la reprise de l'activité après le confinement, ont bien sûr sauvé le président sortant. Bernard Laporte, 56 ans, impétueux, impulsif, mais personnage entraînant, engage donc un deuxième et dernier mandat à la tête de la FFR, qui le verra accueillir la planète rugby en 2023. 2023, vous le savez, une Coupe du Monde que la France devra gagner. C'est l'une des ambitions de Bernard Laporte, presque une promesse de campagne.
Merci Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL qui vient de nous faire vivre cette réélection réaction en direct. Une belle journée pour les Français hier à Roland-Garros. Hugo Gaston, 20 ans, 239e mondial, a créé l'exploit en éliminant Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem. Le jeune Toulousain s'offre donc une place en 8e de finale. Dimanche, il affrontera Dominique Thiem, numéro 3 mondial. Côté filles, la Française Caroline Garcia a également décroché sa place en 8e de finale. Au programme aujourd'hui, deux autres Françaises qui vont tenter de les rejoindre, Fiona Ferro et Clara Burel. Roland-Garros est à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h. En foot, les résultats de la 6e journée de Ligue 1, gros carton du PSG qui a battu Angers hier 6-1. Rencontre à suivre aujourd'hui à 17h, Lens qui reçoit Saint-Etienne et Nice-Nantes. Ce sera à 21h, on refait le match sur notre antenne de 18h30 à 20h avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot jusqu'à 23h. Julie Gayet pour info, Marseille joue demain à 21h contre Lyon. Je sais que vous êtes fan de foot et supportrice de l'OM. On en parle tout à l'heure, mais d'abord parlons cinéma puisque c'est votre actualité. Vous serez le 21 octobre à l'affiche de Polly. C'est l'histoire d'un poney de cirque maltraité qui va être sauvé par une petite fille. Vous êtes la maman de cette fillette courageuse. Patrick Timsit joue le patron méchant et maltraitant du cirque et François Cluzet, un homme de village bourru et solitaire qui va aussi aider à sauver Polly. Bande annonce.
Si Brancalou retrouve Polly avant nous, il va le livrer au boucher qui en fera de la chair à pâté et du saucisson. Il faut nous aider.
Moi, ça m'étonne pas qu'il soit échappé, ton poney.
Comment tu traites tes animaux?
Faut que personne sache que Polly est ici, d'accord? Promis, jury craché?
Oui. Ouais. Tu peux partir tranquille, ils vont être occupés pour un moment.
Emmenez-moi.
C'est la première fois que vous étiez dirigé par le réalisateur Nicolas Vanier, qui est aussi un aventurier. Comment se passe un tournage avec un réalisateur aventurier?
Aventurier et aussi amoureux des animaux, avec cette relation particulière aux animaux. Et donc, à l'écoute, et il a su créer une équipe autour de lui, qui l'a accompagné dans toutes ses aventures, à l'écoute complètement de la nature, des enfants. Donc c'est très différent d'un... Parce qu'en fait, il est normal, Nicolas Vanier. C'est pas un réalisateur qui vient du cinéma, c'est un réalisateur qui vient de la nature, du monde et de l'écoute. Alors c'était assez merveilleux, on était dans les Cévennes.
Paysage à couper le souffle. Mais à couper le souffle. Le film, c'est absolument magnifique.
Pas sous la neige. J'avais cette chance d'être en plein été.
Ouais.
D'ailleurs, il y a eu dans le petit village où on tournait à Monclus un pic de chaleur. Ça a été 46 degrés.
Ouais, ouais. On sent
en plein milieu l'été, de l'été. Voilà.
Donc, les comme quoi, films font beaucoup de bien.
Le réchauffement climatique devient une réalité. On le sent venir. On risque d'avoir donc on voit bien les dérèglements climatiques dans les années à venir. Et c'est était très intéressant et passionnant puisque Nicolas essaye aussi les paroles, enfin en tout cas ce qu'il défend, de le mettre dans des actes, et c'est un tournage éco-responsable. Mm-hmm. Alors moi je ne connaissais pas, c'était la première fois que je vivais ça.
Alors par quoi ça se manifeste par exemple?
Alors ça veut dire que chaque membre, c'est pas simplement, évidemment, pas de gobelets en plastique, pas de touillettes et on a des gourdes, mais c'est pas seulement ça, et des fontaines à eau, c'est aussi chaque chef de poste essaye de trouver une façon d'être moins polluant. Alors, pour les costumières, ça veut dire peut-être faire moins de lessive, essayer de faire autrement, de trouver des systèmes, alors avec de la vodka, des choses assez rigolos. Moi, j'ai découvert, et même pour nous. Mais le chef déco avec des décors recyclables, enfin, à tous les niveaux. Et on doit essayer d'y réfléchir. Donc, chaque tournage s'améliore et on trouve des solutions pour être moins polluant.
Des petites idées pour vous, puisque vous êtes aussi productrice.
Dans un instant, des idées pour nous.
Voilà. Ouais, dans un instant, on parle de votre rôle dans Polly, qui vous va très bien. Et puis, on découvrira vos autres projets du moment. À tout de suite.
Le journal inattendu de Julie Gayet
avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Julie Gayet
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Julie Gayet, dans 3 semaines, on vous retrouve donc au cinéma avec Polly. Nous sommes dans les années 60. Vous jouez le rôle d'une mère séparée. Vous êtes infirmière, femme de caractère et indépendante. Quand l'une des femmes du village vous raconte que son mari ne l'a jamais laissé passer son permis de conduire, voilà comment vous réagissez.
C'est à vous la petite auto devant.
Oui.
J'aurais bien aimé passer mon permis, moi. Mais mon mari, il n'a jamais voulu. Jamais.
Ah bon? Pourquoi?
Si on l'écoute, lui, les femmes, elles ne doivent pas conduire.
Ah oui, je vois. Les femmes, elles doivent pas conduire, hein, c'est ça? Pas voter, pas travailler, pas penser. Elles sont juste bonnes pour les enfants.
Eh,
Je vous voyais acquiescer en réécoutant cet extrait que vous connaissez bien, vous l'avez joué.
Bah oui.
Un rôle de femme accomplie, indépendante, qui passe son permis de conduire, ça vous allait bien ça.
Mais c'est les années 60, juste avant mai 68, c'est-à-dire juste avant le MLF, juste avant de grandes avancées qui
sont
été
arrivées,
la contraception, plein de choses. Mais c'est vrai que c'est cette période un peu où les jeunes mères divorcées, c'était un peu pointé du doigt, alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus courant, et malgré tout pas si simple.